Bonjour Gilles Legendre.
Bonjour.
Les manifestations contre la loi travail hier n'ont pas connu une très forte mobilisation. Il faut faire attention aux mots parce qu'on voit bien ce matin que dans la presse, les avis sont partagés, peut-être encore plus que d'habitude sur l'ampleur de la mobilisation. Mais en tout cas, ça n'était pas massif. Est-ce que vous en concluez que les Français n'y sont pas majoritairement hostiles ?
Non, moi je ne fais pas l'exégèse des manifestations, d'autant moins que nous ne sommes pas dans une compétition et encore moins dans un combat avec les forces syndicales. Je vous rappelle que ces ordonnances ont été prises après une très longue concertation pour laquelle nous avons tous rendu hommage à l'esprit de responsabilité des syndicats, même quand nous savions qu'ils n'étaient pas favorables à notre démarche. Ils ont joué le jeu pendant l'ensemble de la concertation.
Y compris la CGT ?
Y compris la CGT. Il n'y a pas eu de... Tous les syndicats, tous les partenaires sociaux, parce que ça vaut aussi pour le patronat, ont rendu hommage à cette méthode. Ensuite, évidemment, ça ne valait pas accord ni approbation. Qu'aujourd'hui, ce désaccord s'exprime d'une manière assez traditionnelle, qui est celle de la manifestation, mais qui, après tout, est un droit absolument indispensable, ça ne choque pas. En revanche, ce qui est important, c'est que nous continuions d'expliquer notre démarche.
Ce que vient de dire le Premier ministre.
Oui.
Cela prouve qu'il faut expliquer. Mais expliquer quoi ? Vous pensez que l'explication peut ramener le calme dans les esprits et faire retomber très vite cette mobilisation ?
J'ai pas l'impression que les esprits soient très troublés. Il y a une agitation syndicale, elle est respectable, nous n'avons absolument pas ni à la juger, ni à l'évaluer, et encore moins à la condamner. Ce qui est certain, c'est que nous devons rappeler l'objectif de notre démarche. Notre démarche, c'est créer 1 million d'emplois en France sur les 5 ans qui viennent. Nous avons besoin 1 million d'emplois pour ramener le chômage à des zones acceptables et pas simplement réduire le chômage. Il y a un point fondamental qui est de réduire la durée moyenne au chômage. Ça n'est pas la même chose si vous êtes au chômage pendant 3 mois parce que vous êtes en train de changer de job, changer de métier, que votre entreprise a connu des difficultés et que vous savez qu'au bout de 3 mois ou 4 mois vous trouverez et que pendant ces 3 mois ou 4 mois vous serez formé et indemnisé. Et la situation actuelle où vous pouvez rester 1 an, 18 mois, 2 ans, parfois de manière interminable si vous avez dépassé un certain âge, qui n'est pourtant pas l'âge de la vieillesse, et où là vous êtes dans des situations extrêmement critiques. L'objectif de ces ordonnances, c'est de créer un cadre dans l'entreprise, un cadre de discussion, d'organisation, de négociation, qui permette de favoriser un marché de l'emploi beaucoup plus dynamique et beaucoup plus fluide. Ça ne suffira pas.
Mais voilà, c'est ça. J'allais vous demander, est-ce que vous êtes sûr, parce qu'il y a quand même de nombreux économistes, de nombreux spécialistes de la question qui en doutent, que ça aura un impact fort sur l'emploi. Regardez par exemple en Italie, le Job Act de Matteo Renzi, il n'a pas eu l'effet escompté.
Alors, une mesure, aussi essentielle soit-elle, et ces ordonnances sont essentielles, ne suffit pas à réduire le problème du chômage. C'est un ensemble. C'est un ensemble qui concerne le fonctionnement des entreprises, c'est l'objet de ces ordonnances. Ouais. La deuxième brique, j'allais dire, de l'édifice, ce sont tout ce que nous allons faire sur la formation et sur l'apprentissage. J'allais dire qu'en termes d'impact sur l'emploi, c'est encore plus important. Simplement, ça ne peut se déployer que si on a bien réussi la première brique. Et puis, il y a toute une politique macroéconomique, pour prendre un terme que les économistes affectionnent, qui consiste à créer des conditions d'un retour à la croissance durable en France. Notre croissance en France est trop faible. Les économistes parlent de croissance potentielle autour de 1,1, 1,2. Nous devons augmenter ce chiffre pour arriver vers 1,6, 1,7, ce qui permettra de créer des emplois. Et quand je parle de créer des emplois durables, pérennes. Comment le fait-on ? De plusieurs manières. En baissant le poids de la fiscalité en faveur des ménages et en faveur des entreprises, les deux, pour distribuer du pouvoir d'achat aux ménages et pour rétablir les marges des entreprises et leur permettre d'investir, et ensuite en innovant, c'est-à-dire en investissant.
Vous avez entendu hier dans les cortèges ce slogan qui a fait florès, Macron t'es foutu, les fainéants sont dans la rue. Est-ce que le président de la République ne donne pas des arguments avec ce genre de formule à ceux qui l'accusent de mépris social ?
Alors le mépris social, je l'exclus absolument. J'ai eu la chance de fréquenter à mon humble niveau le président de la République pendant toute la campagne présidentielle et la campagne législative. S'il y a un homme respectueux des individus, c'est bien lui. Simplement, il faut le prendre tel qu'il est. Il parle cash. Et pendant 5 ans, il va falloir s'habituer à ce que le président de la République ne soit ni dans le politiquement correct, ni dans les faux-semblants. Il parle cash. Que visait-il dans les fainéants? En parlant des fainéants, certainement pas les syndicalistes, certainement pas les travailleurs, certainement pas un groupe social identifié.
Il a quand même évoqué ceux qui ne veulent pas que ça bouge, ceux qui ne veulent pas qu'on réforme.
Et il a
autrement
raison.
Si on est contre ces réformes, on est un fainéant?
Non, il y a eu dans ce pays, dans notre cher pays, France, depuis 20-25 ans, une culture de l'inefficacité publique que nous payons au prix le plus fort. Et qui paye le prix le plus fort? Ce n'est pas les gens intégrés comme vous et comme moi. Ce sont les plus vulnérables. C'est les personnes au chômage. Ces personnes qui ont vu qui sont passées en dessous du seuil de pauvreté. C'est les sans logis. On est en train de s'attaquer à ce problème-là en ce moment même. Donc, la fainéantise de l'action publique est quelque chose que nous devons combattre avec la dernière énergie. Et si pour le faire, il faut déplacer un certain nombre de vaches sacrées, nous le ferons.
Emmanuel Macron était hier aux Antilles, à Saint-Martin. Il sera aujourd'hui à Saint-Barthélemy, région dévastée par l'ouragan Irma. Alors que la polémique sur les carences de l'État se poursuit, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron hier a su trouver le ton juste auprès des sinistrés?
Écoutez, j'ai entendu les reportages sur votre radio et sur d'autres radios et la télévision. Je crois qu'il y a eu une rencontre. Une rencontre entre le chef de l'État et cette population qui vit quelque chose de proprement effroyable. Les images en rendent compte, les témoignages en rendent compte. Je crois qu'ils avaient besoin de se sentir soutenus, écoutés. Ils avaient aussi besoin d'exprimer leur colère. Et le président a passé de longues heures à écouter cette colère et ses critiques. Il y a répondu, mais il les accueille. Il ne les balaye pas d'un revers de la main. Et je crois que cette rencontre, au sens fort du terme, était essentielle. Elle ne suffit pas. Les mesures que nous allons prendre, la nomination d'un délégué interministériel, les mesures d'urgence pour rétablir très vite les deux services publics cruciaux que sont la santé et l'éducation, sont évidemment essentiels. Et puis, il va falloir s'attaquer à la reconstruction. Alors ça mobilise un nombre d'acteurs extrêmement important.
Le gouvernement, a-t-il dit, devra rendre compte de son action devant le Parlement dans un deuxième temps, car pour l'instant, il faut gérer l'urgence, mais tout de même, rendre compte devant le Parlement. Est-ce qu'il faudra pour cela, selon vous, une commission d'enquête parlementaire?
Écoutez, c'est pas à nous...
D'éventuelles lacunes?
Attendez, c'est pas à nous de décider de la création d'une commission d'enquête. On pourrait le faire, mais... Du point de vue du groupe majoritaire, ça n'est pas une nécessité. En revanche, si l'opposition veut créer cette commission, elle y est absolument fondée. Nous ne nous y opposerons évidemment pas et nous jouerons le jeu. Je ne suis pas sûr que ce soit une priorité dans l'état actuel. Mais si ça doit avoir lieu, ça aura lieu.
Les Jeux Olympiques vont être attribués, les Jeux Olympiques 2024, attribués officiellement à Paris ce soir. Qu'est-ce que la France va y gagner selon vous?
Je crois que c'est un élément essentiel d'un ensemble que nous visons à développer pour restaurer la confiance dans ce pays. Alors, évidemment, c'est peut-être moins décisif que si nous arrivons, et nous y arriverons, à baisser le chômage, ou à apaiser un certain nombre de tensions dans ce pays, ou à restaurer la sécurité, sujet qui nous tient très à cœur en ce moment. Mais je crois que nous avons aussi besoin de projets collectifs, de projets qui transcendent les oppositions politiques. Ce qui est magnifique dans ce projet, c'est que tout le monde y a contribué. La région, qui n'est pas de notre couleur politique, la mairie de Paris, qui n'est pas de notre couleur politique, le chef de l'État, qui, dès qu'il a pris ses fonctions, a mis tout son poids dans la balance, les forces sportives qui ont joué le jeu. Je pense que c'est un très bel exemple que nous offrons à notre pays de communion, et on a aussi besoin de ça.
Merci Gilles Legendre.
Je vous remercie.
Bonne journée.
Le député de Paris, Gilles Legendre, avec Frédéric Rivière sur RFI.